La sœur aînée. Il y avait encore une toquée. C'était Colette Auguet. Une vraie toquée, toute charmante. Quelle fille folle n'est pas raisonnable aujourd'hui. L'extravagance procède avec méthode. La fantaisie sait ce qu'elle fait. Le caprice, un bandeau sur les yeux, a pour chien d'aveugle 2 et 2 font 4. Un chien bien dressé qui rapporte. La passion même a de la tenue, et c'est la tenue des livres. La beauté s'émet. Les boudoirs ont des guichets ouverts sur la rue, et la souscription n'est jamais close. Une fête chez une jolie fille ressemble à une assemblée d'actionnaires. Dividende, l'ennui. Tout le monde baille, surtout les bailleurs de fonds. Colette Auguet, elle, croyait encore à l'amour pour le plaisir et au champagne pour la griserie. Son nom, bourgeois, était aussi, comme par une prédestination, le refrain d'une chanson gamine. Un conseil de chanter la farigue d'Andenne et de la vivre. Elle avait été docile. Toute petite, son bonnet battait des brides du côté des moulins. 6 mois après son père mort, elle quitta le logement familial, pauvre et grave, au Marais, en compagnie d'un commis, mis de nouveauté, qui avait des moustaches de sous-lieutenant. Y avait eu dans l'envolement de sa fuite comme un entrechat de Colombine au bras d'Arlequin. Dès lors, une plume dans le vent, ce fut la vie de Colette, et le vent soufflait de partout. Ah, que d'amour et que de rire! Des larmes aussi, rarement vite essuyées. Une opérette avec 2 ou 3 scènes émues. Tout de suite à la mode, d'ailleurs. La Victoria, qui vint la prendre rue de l'Ancienne Comédie à la porte de l'hôtel Garni, la conduisit avenue de Villiers par le plus court chemin. Elle retourna souvent à Bullier, bonne fille, raffolant de tous les bijoux, parce que cela brille, de toutes les toilettes, parce que c'est amusant d'être plus jolie, de tous les vieux bibelots, parce qu'ils sont très drôles, elle ruina beaucoup de gens, les plaignit fort pour longtemps, quand ils n'eurent plus rien, en ruina d'autres, qu'elle plaignit aussi de la même façon. Mais pas un sou de côté. Voyant un jour une tirelire chez un marchand de faïences anciennes, elle se fit expliquer ce que c'était. Elle ne réussit jamais à le comprendre. Elle se souciait bien d'acheter de la rente. Ce qui lui plaisait, c'était de parier aux courses, où elle perdait énormément en pouffant de rire. Et nulle inquiétude du lendemain. Le lendemain, ce serait un jour comme les autres, qui s'éveille tard dans la chambre de soie et de parfum, fait la risette aux compagnons d'oreiller, déjeune au lit, trotte en pantoufles sur le tapis, se maquille devant la psyché, met une robe nouvelle, va au bois, sourit aux cavaliers qui passent, dîne au pavillon d'Hermenonville, s'accoude, le bras nu dans les dentelles, au velours des avant-scènes, soupe chez Bignon, laisse dégrafer son corsage, ne refuse pas au baiser ses yeux verts où pétille la gaieté du mouette, sa bouche rouge qu'a poivré le piment des écrevisses. Un matin, au moment où les gens bordaient draps, elle cherchait du bout du pied ses mules, sa femme de chambre entra très vivement et dit « Il y a la sœur de madame, là, qui demande à parler à madame. » Sa sœur, qu'elle n'avait pas vue depuis 3 ans. Sa sœur! Colette se mit à trembler de tous ses membres. Ah, c'est qu'Aurélie était une personne redoutable. Le contraire d'une folle, elle. Honnête d'une honnêteté sévère pour les autres comme pour soi-même. Enfant, elle avait l'air grave et un peu morose déjà. Elle ne jouait jamais. Lisait dans les livres, des livres qui instruisent, réfléchissait quand elle ne lisait pas. La mère morte, Aurélie, fut la ménagère. Active, faisant le marché, faisant la cuisine, époussetant les meubles, raccommodant les habits du père, ayant un petit cahier rayé de rouge ou de bleu où elle marquait les dépenses. Économe presque avare, pratique, elle faisait l'admiration des voisins. Tâche d'être comme Aurélie, était une parole que les parents du quartier répétaient à leur demoiselle. Pour être parfaite, il ne lui manquait que d'être pieuse. Elle le fut dès sa première communion. Elle allait tous les matins à la messe, les yeux baissés, édifiante. Quand le curé de la paroisse rencontrait Aurélie, il s'arrêtait pour causer avec elle, et l'on voyait bien à son air paternel et satisfait qu'il la complimentait de sa bonne conduite. Elle rougissait, intimidée, très humble. Devenant jeune fille, elle devint plus grave, plus réservée encore. Elle ne se mettait jamais à la fenêtre. Le dimanche même, elle n'allait pas à la promenade. Elle disait qu'elle ne se marierait pas. Peut-être pensait-elle à prendre le voile. Et que de bons conseils elle donna à cette évaporée de Colette. Nuit et jour, elle demandait au ciel que sa sœur devînt point à mal tourner. Ah, le ciel n'exauce pas toutes les prières, hélas! Et depuis la fuite avec le commis à Nouveauté, Aurélie, navrée au plus profond du cœur, oh, ceci Colette l'avait appris, redoublait de vertu comme pour compenser les fautes de l'enfant perdu, vivant du travail de ses mains, ardemment dévote, estimait des gens de bien, agréable à Dieu. La première pensée de Colette fut de ne pas recevoir Aurélie. Mais ce n'était pas possible, on ne met pas sa sœur aînée à la porte. Tremblante, avec des mouvements d'instinct, en répétant « Oh mon Dieu, oh mon Dieu !» elle s'enveloppa d'un peignoir, fourra son amant dans le cabinet de toilette, jeta dans une armoire le domino, le loup, car elle avait passé la nuit au bal, mit les bracelets et les boucles d'oreilles dans le coffret à bijoux, et dit enfin, émue comme une condamnée qui va voir l'inévitable bourreau, « Faites entrer, allons, faites entrer !» Il eût été plus convenable de recevoir Aurélie dans le salon. Elle ne pouvait pas, à cause du souper, dont les crevettes et les ailes de perdreau devaient traîner dans les assiettes. En voyant son aînée, grande, belle, mais l'air si austère dans une robe sombre, un peu de l'air d'une religieuse, Colette eut envie de se cacher sous le lit et détourna la tête, le front dans les mains. Mais Aurélie s'approcha et lui parla très doucement. N'aie pas peur, pauvre petite. Oh, je ne viens pas pour te faire des reproches. Ils serviraient à rien. Oh, mon cœur se brise de te voir ainsi tomber, mais ce qui est fait est fait, et le mal maintenant est encore irrémédiable. Plus tard, peut-être, oh, quand tu ne seras plus jeune, tu pourras changer de conduite et tu mériteras d'être pardonné. En attendant, j'ai un devoir à remplir. Les existences comme les tiennes ont de tristes fins, cher enfant. Après les luxes, il y a la pauvreté. Tu n'auras pas toujours 22 ans. Celles qui ont vécu dans le désordre mourront dans la misère. Tu ne songes pas à l'avenir, alors moi je veux y penser pour toi. Tu es prodigue, tu as tort. Je te ferai faire des économies. Quoique mal acquis, il faut garder son argent, qu'on peut sanctifier plus tard en l'employant à de bonnes œuvres. C'est un bien cruel sacrifice que je te fais en m'occupant de tes affaires. En aurais-je autant le courage? Je l'espère. Je ne veux pas que ma sœur meure dans un lit d'hôpital. Stupéfaite, extasiée de tant de dévouement et d'abnégation, Colette tomba aux pieds de son aînée. Et elle lui baisait les mains avec de petits sanglots. Pendant 4 années, Aurélie habita chez Colette. Oh, elle ne se mêla pas à la vie abominable de sa sœur. ni le bois, ni les théâtres, ni les bals. Si elle sortait seule. N'entrait jamais au salon quand des gens étaient là. Évitait toutes les rencontres avec les filles et les clubmen qui venaient voir sa sœur. Se tenait presque toujours dans une chambre à l'écart, simplement meublée de meubles qu'elle avait apportés où il y avait un prie-Dieu. Même elle payait. Le premier, piété pas excessive, bien entendu. Ils sont estimés dans leur quartier. Ils sont heureux, méritent de l'être. Quant à Colette, moins jeune et toujours folle, elle essaie d'aimer et de rire encore. Un rire qui va pleurer. Peu à peu, elle descend le triste chemin. Elle sera bientôt arrivée dans l'ignominie et le dénuement sordide. Vous la rencontrerez au coin de quelques rues par un soir d'hiver, grelottante et battue de la neige et du vent. La pauvre petite cigale qui a chanté pour une infâme fourmi.